Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce début d'épisode, qui concerne le livre « Jamais de trop », « Accueillir un enfant trisomique » avec préface de Guy Gilbert, nous retrouvons Denise Raymond, la maman, et Jérémy, son fils aîné trisomique. Elle nous a fait partager dans nos lectures un peu de sa vie de maman de trois enfants, dont l'aîné est handicapé. Et la lecture du jour commence par cette phrase « Lorsque l'envie me vient de baisser les bras, je pense au bon moment et heureusement, il y en a. » L'amour qui leur est prodigué est décisif dans leur épanouissement et à leur manière, ils nous le rendent bien. Reprenons donc notre lecture car elle a encore beaucoup de choses à nous dire. Lorsque l'envie de baisser les bras, je pense au bon moment et heureusement il y en a, il faut se dire qu'avant d'être des trisomiques, de tels enfants sont comme les autres. Et pour qu'ils aient les mêmes droits, il faut être présent à leur côté à chaque instant de leur vie. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut éviter de se montrer négatif. Au contraire, il faut redoubler d'amour et ne pas les mettre à part, sous prétexte qu'ils n'arriveront pas à faire comme tout le monde. D'ailleurs, essayer de leur faire faire les mêmes activités que les autres peut être plutôt positif, non seulement pour eux, mais également pour ceux qui les entourent. L'amour qui leur est prodigué est décisif dans leur épanouissement et à leur manière, ils nous le rendent bien. À 10 ans, il fallait encore répéter sans arrêt les mêmes choses. Va te laver les mains, mouche-toi. Tu ne sens pas ce qui te gêne ? Cette débauche de paroles finit par user, mais cette aide quasi permanente fait partie intégrante de la stimulation. Jérémy a beaucoup évolué et progresse toujours. Cependant, c'est un souci permanent, présent et surtout futur. Il avait besoin de moi chaque jour. Cela commençait dès le matin pour la toilette et pour l'aider à s'habiller, car même s'il faisait beaucoup de choses tout seul, il fallait impérativement passer derrière. À table, à chaque repas, il fallait ressasser les mêmes consignes. Mets ta serviette, tiens-toi droit, tiens bien ta fourchette et ton couteau, essuie ta bouche, mange moins de pain, essaie de couper ta viande tout seul. Jérémy avait aussi tendance à manger avec les doigts. En fait, les rares aliments qu'il pouvait prendre avec les doigts, il les coupait et vice-versa. Plus petit, il croquait les noyaux de cerises et noyaux d'olive ou recrachait les amandes lorsqu'il mangeait des dragées. Il avalait également systématiquement les chewing-gums. Pour lui, mâcher va en effet de pair avec avaler. Maintenant, il ne mange plus de chewing-gum et beaucoup moins de bonbons. C'est vrai qu'il m'arrive d'être moralement fatiguée, mais je l'aime tellement que je n'ai pas le droit de capituler. On ne peut pas non plus éviter, même si l'on s'en défend, de faire des comparaisons entre Jérémy et d'autres enfants du même âge. La réalité fait alors très mal. Je me laisse alors aller à pleurer, mais je sèche mes larmes en pensant à tous les petits bonheurs que m'apporte mon fils et ses joies estompent mes peines. Mon Jérémy, je l'aime tant. Certaines de ces réflexions ne concernent pas seulement Jérémy, mais s'appliquent aussi à son frère et à sa sœur, bien qu'ils soient plus jeunes. C'est en effet dès l'enfance qu'on doit leur inculquer les bonnes manières, car plus tard, c'est plus difficile. Quoi qu'on lui dise, Jérémy répond invariablement « oui, il n'est pas contrariant ». Néanmoins, il oublie vite son engagement et souvent ne fait pas ce qui lui a été demandé ou fait carrément l'inverse. Les rares fois où il lui arrive de dire non, il ne tient absolument pas compte de ce qu'on lui a demandé et fait comme s'il n'avait rien entendu. Jérémy aime beaucoup aller à la bibliothèque afin de choisir plusieurs livres, de préférence imagés, pour les rapporter à la maison. C'est une des rares activités qui lui permettent de fixer son attention plus d'un quart d'heure. Je sais que je lui fais plaisir en le conduisant à la bibliothèque. Son autre passion est la musique. Il est capable de regarder un concert sur cassette vidéo dans son intégralité et sans broncher. Souvent, il va chercher sa guitare, jouer sophistiqué, met un bandeau qui lui tombe pratiquement sur les yeux et se met à chanter et à mimer tout ce qu'il voit. Il apprécie également les dessins animés et connaît certaines cassettes par cœur. Là aussi, Jérémy se sent obligé de se déguiser. Laïfi, quant à elle, n'a plus de secret pour lui. Il lui a suffi de regarder une fois son fonctionnement pour comprendre comment l'utiliser. Il nous a d'ailleurs déclaré que quand il sera grand, lui aussi aurait tout cela. Je pense que Jérémy pourrait se passer de certaines choses, mais certainement pas de musique. Celle-ci fait partie intégrante de sa vie. N'ayant que peu de loisirs, il est difficile de l'empêcher d'en écouter, même si on aspire à un peu de calme. Maintenant que Jérémy est adulte, je suis moins à l'affût du moindre progrès. Néanmoins, bien qu'étant satisfaite de ses efforts, j'ai tendance à attendre plus de lui que de notre enfant. Le moindre petit pas en avant me procure une grande joie. Pourtant, il faut savoir ne pas trop en demander à de tels enfants et comprendre que ce qu'ils arrivent à faire est déjà bien. Même à 36 ans, je dis toujours « un enfant » ou « mon gamin », mais pour moi, sa maman, c'est ce qu'il est, au même titre que son frère et sa sœur. Évidemment, il faut constamment stimuler Jérémy pour obtenir le moindre résultat. Mais à la réflexion, il en va de même pour les autres enfants. La seule différence quand il s'agit d'un enfant trisomique, c'est qu'il ne faut jamais se relâcher. Jérémy se rend compte qu'il progresse et montre son désir d'aller plus loin, ce qui est encourageant pour lui comme pour moi, malgré les jours sans où rien n'est visible. Après tout, le soleil se lève pour tout le monde et demain est un autre jour. J'essaie de vivre et de penser au présent, et cependant je dois aussi songer au futur de Jérémy. Que deviendra-t-il? Que fera-t-il quand je ne serai plus là? Certes, je clame haut et fort que je ne veux pas que Jérémy aille dans une institution spécialisée, mais qui voudra bien le prendre en charge alors? Tout le monde est, semble-t-il, d'accord et plein de bonne volonté, en théorie. Mais en pratique, cela reste à prouver. Les bonnes excuses sont vite trouvées pour se décharger et se déculpabiliser. Il nous faut donc faire face à toute éventualité et essayer de faire la part des choses, de discerner le propos qui s'avérera le plus fiable, le plus sincère, le plus honnête. Si seulement la médecine pouvait progresser plus vite, si, dans un avenir plus ou moins proche, il pouvait y avoir une amélioration dans le bien-être général de ses enfants. Quel soulagement pour les parents, même si cela ne devait concerner que les enfants à venir. L'espoir fait vivre, mais il faut aussi garder les pieds sur terre. Jérémy a reçu les sacrements du baptême et quelques années plus tard, il faisait la première communion. Ainsi, il pouvait participer à l'Eucharistie. Il a assisté aux célébrations de l'éveil à la foi qui précède la première année de catéchisme. Il n'a pas suivi tout le programme, mais le prêtre qui s'occupait de lui était d'une grande bonté et plein d'amour pour les enfants. Jérémie y a été sensible et le lui a bien rendu. Les célébrations ne lui demandaient pas d'efforts particuliers. Il dessinait, apprenait des chants et autres activités liées à la préparation de la communion. Qu'a-t-il retenu? Tout se passe entre Jésus et lui. J'ai toujours été persuadée qu'au moment où Jérémie reçoit le corps du Christ, il est en communion profonde avec Dieu. Il suffit de voir la joie sur son visage. Cet événement, la première communion, était important aussi pour Jérémie que pour moi, mais pas pour les mêmes raisons. Il aimait dire « Je vous salue Marie ». Pour ce jour-là, Jérémie avait retenu tout ce qu'il devait faire. La position des mains, recevoir Jésus, puis retourner à sa place. Comme il était heureux ce jour-là. À cet instant, j'étais émue aux larmes. C'était un grand jour. Apprendre à Jérémie les bases essentielles de la vie n'était pas chose aisée. Sans repère ni guide, plus de reproches que d'encouragements. Supporter les regards moqueurs, insistants, essuyer des refus. Les « on ne veut pas de votre enfant ». Les discussions à la sortie de l'école. Entendre parler de son enfant semblable à un pestiféré, comme si la trisomie était contagieuse. Les réflexions du genre « il va devenir une larve ». Il ne marchera pas, ne parlera pas, vous feriez mieux de l'abandonner. Paroles insistantes prononcées par le personnel médical et parfois même pas le moindre. On me dit que Jérémie fait de l'ombre à son frère et à sa sœur, qu'il faut l'écarter afin de ne pas les perturber. Par la prière et dans la prière, je trouvais un réconfort. Heureusement, car parfois le quotidien était rude à gérer. La foi présente au plus profond de moi m'a soutenue. Le besoin de prier était grand à chaque contrainte, obstacle, la prière comme une question de survie au quotidien. Tout comme enfant, j'allais me réfugier à l'église. Là, c'est au fond du cœur de Marie que je trouvais la paix tout en restant chez moi. Mais souvent, après une petite victoire, une lueur d'espoir, bonheur fragile à préserver à tout prix. Merci, mon Dieu. Avoir un enfant handicapé nous enseigne les vraies valeurs de la vie. Connaître les ou ses priorités. Jérémie est heureux. Il ne demande qu'à aimer et être aimé. Il a le chromosome de l'amour. C'est avec la foi et la confiance que l'on peut avancer, vivre avec, l'aider du mieux possible, lui simplifier la vie pour qu'elle lui soit agréable. Il faut avoir la foi chevillée au corps pour affronter les épreuves, les maladies sournoises, l'ignorance d'autrui, l'intolérance, les agressions physiques et verbales. Malgré tout, Jérémie est toujours souriant. Agréable à vivre, insouciant. Il émane de Jérémie une joie de vivre communicative. Il est mon diamant d'innocence. Tout comme Adam avant de manger la pomme, il est un être pur, préservé de toute souillure. Il a un supplément d'âme qui fait toute la différence. Il ne sait pas être méchant, agressif. Il ne connaît pas la malfaisance sinon celle des autres. Il ne comprend pas que cela puisse exister. Pourtant, enfant, il a été victime d'agressions physiques et morales lors de sa scolarisation. Et plus tard, en tant qu'adulte, il en est peiné, mais il n'en parle pas. La loi du talion ne le concerne pas. De me remémorer ces faits m'est encore douloureux. Si parfois l'idée de baisser les bras m'a traversé l'esprit pour diverses raisons, le sourire, la bonne humeur et surtout l'amour de Jérémie me redonnaient courage et la force de me battre pour lui. Jérémie prie à sa façon, avec ses mots à lui. Il est appelé à grandir dans une relation personnelle avec Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour honorer son nom. Psaume 22. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tout est dit. Jérémie est ma source d'inspiration, en particulier pour ce livre que j'ai écrit dans le but d'aider d'autres parents ou aidants en charge d'une personne porteuse d'un handicap. Une aide humaine au quotidien. C'est dans la foi et sous le regard de Dieu que je partage cette expérience. J'ai confiance en la vie. Je lève les yeux vers la lumière qui guide mes pas. Je reste en silence. Écoutez Dieu parler à mon cœur. Écoutez le silence. Les mots d'homme sont usés. Les mots d'homme sont souillés, mais le silence est vierge. Et lui seul peut toucher dans le jardin de Dieu les douces fleurs inexprimables. Écoute le silence. Si tu sais l'écouter comme le bruit de la mer au fond d'un coquillage, il te remplira d'infini. Si tu sais l'écouter comme un sanglot de source, une source cachée en son jaillissement, il te remplira d'eau vive. Si tu sais l'écouter comme le chant d'un luth, comme un cantique des cantiques, il te remplira de musique. Écoute le silence, même s'il te paraît vide comme une absence. Dans la foi, tu rencontreras celui qui est toute présence. Écoute le silence. Si tu sais l'écouter comme Élie le prophète, tu entendras venir une brise légère et tu reconnaîtras le passage de Dieu. Si tu sais l'écouter comme la Madeleine, écouter la voix de son bien-aimé, comme elle, tu sauras briser ton urne pleine, car le silence est un parfum. M.M.C. La croix, symbole de salut et d'espérance. Amener son enfant de la naissance à sa vie d'adulte, à deux, c'est idéal, mais seul, cela s'avère plus compliqué. Son père était là, mais n'acceptait pas la trisomie de Jérémie. Je devais composer sans aucun soutien de sa part, quel qu'il soit, sans même pouvoir exprimer ou échanger mes ressentis. Il était dans un déni total face au handicap de son fils. Il ne comprenait pas le retard psychomoteur de Jérémie en comparaison d'un enfant de son âge. Parfois, il avait des mots sévères et blessants. Il agissait comme si Jérémie n'existait pas et en faisait le minimum avec lui. En revanche, Jérémie ne manifestait aucune animosité envers son père. Il ressentait très certainement ce rejet car d'une sensibilité à fleur de peau. Mais papa reste papa. Avec son frère cadet de 21 mois, tout se passait bien. Par contre, avec sa petite sœur, son comportement était différent. Elle voyait comment son père agissait, donc pour elle, c'était normal, si bien que dès que Jérémy s'approchait d'elle, elle se mettait à crier. Et Jérémy ne comprenait pas pourquoi. Pendant l'adolescence des trois enfants, c'était encore pire. Jérémy était perçu comme persona non grata. Pas uniquement avec son frère et sa sœur, mais avec l'entourage également. Il faut avouer que l'adolescence est un passage obligé, compliqué, de la vie et n'épargne pas grand monde. Pour soi, c'est déjà difficile d'assumer cette période, et donc pour une personne différente, elle l'est d'autant plus. Jérémy, vu son handicap, n'a pas fait sa crise d'adolescence au même âge que la plupart des jeunes enfants. Il devait avoir environ 18-20 ans sans qu'il s'agisse d'une crise à proprement parler. Rien à voir avec celle de son frère ou sa sœur. Lui, tout s'est passé en douceur, à tel point qu'elle n'est pas à marquer dans les annales. Adulte, les attitudes changent. Les enfants ont bien réalisé que j'avais dû me démener toute seule pour les élever, et pas uniquement Jérémy, mais les trois enfants réunis. Et ma fille de me dire « Maman, j'ai honte d'avoir eu honte. » Le cœur d'une mère est un vase profond au fond duquel on trouve le pardon. Écrit par Victor Hugo. Seule, tout en essayant de vivre et de penser au présent, il faut songer au futur de Jérémy. Rester à son écoute et lui faire confiance, parler ensemble et lui proposer ce qu'il semble être le mieux adapté pour lui. Après avoir fait les démarches nécessaires, j'obtenais pour Jérémy une place en foyer d'hébergement, pensant que c'était la meilleure solution pour nous deux, mais surtout pour lui. Il travaille à l'ESAT tout proche et rentre régulièrement au domicile. Il s'avère qu'en fait, c'était une bonne décision. La médecine ne progresse pas vite et espérer une amélioration dans le bien-être général de Jérémy et des autres personnes trisomiques. Quel soulagement ce serait ! Je crains fort que cela tienne de l'utopie. À l'heure actuelle, il ne s'agit plus du bien-être des personnes porteuses d'une trisomie 21, mais de transhumanisme. Jean-Marie Leméné, créateur et président de la Fondation Jérôme Lejeune, se bat contre l'eugénisme. Et les premières victimes du transhumanisme sont les trisomiques. L'éradication des personnes porteuses de trisomie 21 devient inéluctable, malheureusement. Parfois, la croix est bien lourde à porter. Et pourtant, la foi est primordiale à ma vie de chrétienne. Elle me permet de résister et d'affronter les affres du quotidien. Il fut crucifié là. Il fut crucifié là, sur le mont Golgotha, Jésus de Nazareth, que le Père envoya. Il fut crucifié là, comme un vil malfaiteur, pour porter nos péchés, lui, le roi, le Seigneur. Mon salut, il est là, à la croix du calvaire. Je viens y déposer mon chagrin, mes misères. Mon repos, il est là, oui. Tout est accompli, car sur ce bois maudit, Jésus donna sa vie. Ce sera toujours là, l'ultime rendez-vous. Pour prier par la foi, le combat à genoux, mais je sais que c'est là, le lieu de la victoire. J'irai m'y réfugier, gardant toujours l'espoir. À toi de venir là pour recevoir la paix. Ne cherche pas ailleurs. Où tu t'égarerais, ton Dieu dit que c'est là qu'il donne le salut et pas un autre nom que celui de Jésus. » Signé Yves Prigent. Lorsque le doute s'installe, on se demande si Dieu existe vraiment. Avec le découragement, rien ne va plus. Tout sombre, la tristesse, l'angoisse, les idées noires s'immiscent jusqu'au plus profond de son être. La force de la prière reste la seule issue incroyable de l'amour du divin. Mais il n'est pas facile d'exprimer tous ces ressentis. Être sûr que Dieu va nous écouter, entendre le cri de notre désespoir. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Psaume 9b, verset 1. Douceur, tendresse, espérance, miséricorde, amour. Prier est un don de Dieu. Merci, mon Dieu, pour ta présence. La présence divine est précieuse à mon cœur. La vie est pleine de ces plaisirs vifs qui ne coûtent rien. Signé Alain. Longtemps j'ai pensé que le bonheur existait, mais pour demain, toujours demain. Je le croyais, je l'espérais, comme l'enfant qui attend son cadeau de Noël. En me mariant, j'étais convaincue qu'il serait au rendez-vous, ce bonheur dont beaucoup parlent, persuadée qu'une meilleure vie serait la mienne. Pour moi, il fut de courte durée. Ensuite viennent les enfants et les joies que ces petits apportent, mais le rythme de la vie quotidienne fait que l'on ne peut pas s'attarder. Donc, on se dit le bonheur sera plus tard. Ensuite, les choses s'accélèrent. Les enfants quittent le nid dans l'attente qu'ils se posent de façon définitive, créent leur propre foyer, est une situation stable et toujours dans l'attente de demain. Et puis, on pense à la retraite. Là, on se dit « on y est ». Mais c'était sans compter avec la maladie surgie d'on ne sait où et qui en quelques mois emporte sans crier gare le compagnon avec qui vous attendiez de connaître ce bonheur tant attendu. En fait, il faut vivre le moment présent, carpe diem. Il est là ce bonheur tant recherché, sous différentes formes, en compagnie ou pas, à n'importe quel moment. Pourquoi courir après des chimères? Ne plus attendre que tel ou tel fait se termine en se disant que le bonheur sera enfin là. Jean-Baptiste et Rachel ne sont pas exclus, loin de là, mais c'est différent. Chaque enfant, qu'il soit trisomique ou pas, est unique et l'amour qu'on leur porte l'est aussi. Chacun d'eux a été désiré, mais les liens qui nous unissent, Jérémy et moi, sont particuliers. Il est vrai que Jérémy est l'aîné, ce qui implique que c'est le premier enfant désiré et attendu. De plus, on ne peut pas rester indifférent à toutes les épreuves qu'il a subies depuis sa naissance. Il m'arrive de rêver à ce qu'aurait été notre vie et la sienne. Si Jérémy avait été normal, cela aurait été merveilleux. Je ne suis certes pas pressée, mais quelle joie de savoir qu'auprès de Dieu, tout est beau et qu'un jour Jérémy ne sera plus trisomique, et ce pour l'éternité. C'est l'amour qui préside à tous nos efforts. J'aime Jérémy plus que tout, et son frère et sa sœur l'aiment également très fort. Jérémy est toujours de bonne humeur, agréable à vivre, toujours prêt à rendre service. Dès son réveil, il a le sourire. L'amour que nous lui prodiguons, il nous le rend bien, il sait se faire aimer. Et s'il arrive qu'une personne se montre réservée, il le sent immédiatement. Il a aussi une sorte d'instinct qui lui permet de ressentir si une personne est malheureuse. Il est alors prêt à prendre sur lui la misère de l'autre et fera tout pour lui rendre le sourire. C'est vrai qu'il est handicapé, mais Dieu l'a doté d'une immense capacité d'amour envers les autres. Ses sourires, sa bonne humeur, ses faits et gestes, son humour nous récompensent amplement de nos efforts. Je suis confiante en l'avenir, même s'il semble fragile. Je suis sûre que Dieu ne le laissera jamais tomber. Jérémie avec ses joies et ses peines est le noyau de la famille. Son handicap me permet de ne pas perdre de vue les valeurs de la vie que je considère comme essentielles. Je pense que s'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est celle de vivre en toute humilité. Bien sûr, personne n'est obligé de croire en Dieu, mais cela aide beaucoup, car Dieu est amour. Quand je pense à la joie intense de Jérémie, joie qu'il m'a d'ailleurs transmise, lors de sa communion, je ne peux m'empêcher de penser qu'au moment précis de l'Eucharistie, il devait être en profonde communion avec Dieu. Je ne dis pas qu'il y a eu miracle, loin de là. Il faut garder les pieds sur terre. La trisomie est incurable. Ce n'est la faute de personne et surtout pas de Dieu. Je crois tout simplement que l'amour de Dieu est plus fort que tout et qu'il aide Jérémie à mieux vivre. Ainsi, ce n'est pas forcément à l'extérieur qu'il faut chercher une amélioration, mais bien plutôt à l'intérieur, au niveau du cœur et de l'âme. La beauté de l'âme est la chose la plus importante, et celle de Jérémie est sans nul doute d'une pureté incommensurable. Je ne sais pas quel est le plan d'amour de Dieu pour Jérémie. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais une chose est sûre, il protège Jérémie. Je sais aussi que, même si les cours de catéchisme dépassent son entendement, il comprend certaines choses insaisissables pour nous. À travers Jérémie, Dieu me transmet son amour et me conforte dans ma foi, parfois soumise à rude épreuve. Jérémie est heureux de vivre et transmet sa joie autour de lui. Si la trisomie l'avait épargné, ma vie et la sienne auraient probablement était différente. Mais la réalité est ce qu'elle est, et je dois faire en sorte que la vie avec lui soit la meilleure possible durant notre passage sur terre. Les années ont passé. Jérémie a maintenant 20 ans. Après un passage de quelques années en IMEM Pro, il est maintenant en CAT et en foyer d'hébergement. Il rentre à la maison tous les 15 jours. Il est très bien intégré, il mène une vie tranquille, rythmée par différents loisirs, en particulier sportifs. Jérémie est heureux ainsi, ce qui pour moi est très important. En choisissant cette orientation, j'ai pensé à son avenir, et en particulier à son « après-moi ». Ainsi, chacun suit son chemin paisiblement, et espérons-le durablement. Chapitre 7. Jérémie, adulte. Après quelques années en IMEM Pro, Jérémie a fait son entrée à Nézat et au foyer d'hébergement de Pierre Latte à l'âge de 20 ans. À la suite des stages à Nézat et en parallèle du foyer d'hébergement, Jérémie a été admis dans les deux établissements. Il s'agissait qu'il s'adapte à son environnement, à ses camarades, ses éducateurs, au rythme de travail et au type d'atelier qui lui conviendrait le mieux. Au foyer, c'était un peu la même chose sans le travail, mais avec les autres résidents, les éducateurs s'appliquaient à respecter le fonctionnement du foyer. À l'ESAT, Jérémie a commencé par l'atelier sous-traitance, puis il s'est essayé au jardin, espace vert, ménage, etc., pour finir à l'atelier palette où il a travaillé, jusqu'à des problèmes de circulation du sang dus en partie à la station de boue. Il s'est bien adapté, il s'y sent bien, une bonne entente entre les ouvriers et les responsables de l'atelier. Tout cela donne de bons résultats. De 8h30 à 16h30, Jérémie travaille avec une coupure pour le repas de midi. Le vendredi, les ateliers s'arrêtent à 15h30. Il arrive que Jérémie se plaigne parce qu'un camarade le verbe haut et il a du mal à supporter cet état de fait. Malgré cela, qui n'est pas d'une grande importance, Jérémie s'entend avec tous ses camarades et est très bien intégré. Les AT ferment quelques jours au printemps, en été et à Noël, pour la plus grande satisfaction de tout et de tous. Une fois par an, je suis convoquée à l'ESAT pour le projet individuel de Jérémy, idem pour le foyer d'hébergement. Assistent à cette réunion Jérémy, l'éducateur référent, le psychologue, le chef d'atelier et moi. Lecture est faite du précédent projet, conclusion de ce qui a été fait durant l'année écoulée. Jérémy est interrogé sur ce qu'il a envie de faire à l'avenir. Ensuite, chaque participant donne son point de vue et l'éducatrice en fait la synthèse. Pour ma part, je n'interviens que ponctuellement afin d'apporter une précision sur telle ou telle chose. Le projet individuel est intéressant pour le jeune car il lui permet de s'exprimer, de choisir un autre atelier selon ses capacités et selon les places disponibles. On lui a fait longtemps miroiter qu'il pouvait aller à l'atelier ménage. Il y avait toujours une excuse pour que ça n'aboutisse pas. Jusqu'à ce que je dise « ça suffit » de le balader, et ce fut la fin de l'histoire. C'est également l'occasion de faire le point sur ce qui a été effectué et qui peut être amélioré ou changé. Le Conseil de la vie sociale jeune, CVS, se réunit au minimum 3 fois par an. Chaque participant pose des questions concernant le fonctionnement de l'établissement. Les conclusions sont envoyées aux familles ainsi qu'au CEO, Conseil d'évolution et d'orientation de l'association. Le vice-président invite 2 familles à participer à la réunion du CVS. Ainsi, professionnels, usagers et familles peuvent échanger sur les règles de vie, la gestion ou l'organisation quotidienne. L'accompagnement des jeunes par les professionnels avant chaque réunion est important, car il les aide à s'exprimer et formuler tout souhait, attente, besoin ou difficulté. Il est également important que les familles ayant leur enfant dans l'établissement s'expriment, car c'est par l'échange que l'on peut progresser dans l'intérêt des personnes accueillies. Les jeunes travailleurs employés en ESAT sont résidents au village. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les travailleurs de l'ESAT. Certains sont externes, en famille ou en appartement en ville. Mais il est nécessaire d'être employé en ESAT pour être résident en foyer d'hébergement. Au foyer, chacun dispose d'une chambre individuelle, laquelle est aménagée à son goût par le résident. Il peut être aidé par un éducateur ou par sa famille. Une salle de bain aménagée fait partie de la chambre. Une cuisine équipée, une grande salle à manger les accueille pour les repas ainsi qu'un salon pour la relaxation. Chacun s'y sent comme chez lui. Tout comme à l'ESAT, un CVS est en place au foyer d'hébergement. Le principe en est le même, sinon qu'il diffère par l'environnement. Comme il s'agit d'un lieu de vie, les questions sont en fonction de la vie en communauté. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que Jérémy est au foyer d'hébergement Les Papillons Blancs de Pierrelatte. Il est en même temps employé à l'ESAT. Il est heureux de cette situation et rentre à la maison tous les 15 jours. Il aime retrouver son lieu de vie. Il a ses habitudes. Pratiquement à chaque fois qu'il est à la maison, il change de place ses CD, ses DVD, ses livres. Il y a longtemps, Jérémy déplaçait les meubles de sa chambre. J'ai dû lui dire d'arrêter car le plancher n'appréciait pas du tout. Depuis, au foyer régulièrement, Jérémy déménage ses meubles et change ainsi l'apparence de la pièce. En poursuivant notre lecture, c'est maintenant Jérémy un jeune adulte, puis un adulte réellement, que nous commençons à voir. Nous avons vu un peu les différentes étapes de sa vie. À bientôt, chers auditeurs, pour la suite du livre « Jamais de trop, accueillir un enfant trisomique » avec la préface de Guy Gilbert. Mais n'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus 103.2 en direct les mardis et mercredis 21h30 et rediffusion les lundis et mardis à 6h. Quant à la brève de « Je lis pour vous », c'est le samedi matin à 7h. Au revoir, chers auditeurs.